c'est 9h midi, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG vous offrent vos vacances. Ne l'oubliez pas, les Grandes Gueules, avec un premier gagnant cette semaine avec nous dans les GG tout à l'heure à 11h20. Vous m'envoyez vacances par SMS au 732-16, vacances par SMS au 732-16. C'est des vacances qui sont offertes dans l'un des clubs Bellambra. 50 clubs pour profiter des plus beaux endroits de France. Mer, montagne, campagne, toutes les régions sont, quasiment toutes les régions sont desservies. Tiens, je regardais du côté du sud-ouest, vous avez Seignos-Osgore, Cap-Breton, Anglette et Biarritz.
Bien, tout ça.
Vous avez aussi Gourette, c'est dans les Pyrénées, je crois, Gourette.
Haute-Pyrénées. Haute-Pyrénées, voilà. Préfecture. Ah, pas facile, hein. Ah.
Tarbes, non. Ou Lourdes.
Lourdes, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques.
Voilà, non, là-bas, non, c'est Lourdes. Beau, non, les Hautes-Pyrénées.
Bah oui.
Donc là, vous voyez, je vous
cirque de Gavarnie.
Ouais, je vous ai cité l'ouest de la France.
Non, c'est pas là-bas.
Non, sud-ouest.
Les Bernais. C'est parti à Noël.
Bernais.
Après, vous pouvez aussi choisir, par exemple, d'aller en Corse. Borgo, Propriano, c'est. Vous pouvez y aller.
Magnifique. Oui, vous pouvez aller au château de Charles aussi.
Vous hein?
On propose pas le château de Charles aussi en vacances?
Non, dans le Jura.
Arbonne. Non, je sais pas le Jura. Mais allez-y, vous m'envoyez vacances par SMS au 732-16.
C'est très exclusif.
Vous jouez et vous gagnez. On y va maintenant pour la vous de choisir.
RMC les Grandes Gueules.
À vous de choisir.
Vous avez voulu que l'on parle du suicide du jeune Lucas qui a mis fin à ses jours début janvier à Golbey dans les Vosges. On se souvient que cette mort, ce suicide avait provoqué beaucoup d'émotions. Mmh. Quatre mineurs de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide de Lucas. Ses proches, sa famille, sa mère qui a pris la parole, estiment qu'il s'est suicidé après avoir été harcelé à cause de son homosexualité.
Oui, on parle de harcèlement scolaire homophobe. Lucas avait 13 ans. Il s'est suicidé, c'était il y a maintenant 3 semaines. Donc il y a 4 mineurs de 13 ans qui vont être entendus à huis clos par le juge des enfants. Ça va se passer d'ici quelques semaines. Ces collégiens, 2 filles, 2 garçons, sont ressortis libres d'une garde à vue de 10 heures au commissariat d'Épinal. Ils ont admis avoir proféré à plusieurs reprises des moqueries à l'encontre de leur camarade Lucas. Alors, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui va s'appliquer, puisque désormais, cette loi fait du harcèlement scolaire un délit pénal passible de prison. On a voulu légiférer spécifiquement pour, évidemment, définir cet interdit dans notre société. Alors, des mineurs qui vont en prison, c'est très rare en France, et je parle sous la responsabilité de Charles Consigny. Ça arrive, mais en général, c'est quand il y a des meurtres.
Dans des prisons pour mineurs ou dans des quartiers mineurs.
Là, on voit quand même mal ces gamins partir en prison, mais la loi elle prévoit en théorie des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Donc, dans les faits, ces mineurs pourraient terminer en prison. Est-ce qu'il faut faire de cette affaire une affaire exemplaire ?
32-16 pour en parler avec les GG.
Il faut jamais, en justice, il faut jamais faire une affaire exemplaire. On juge pas pour faire un exemple. On juge par rapport aux faits qui sont soumis à l'appréciation de la justice et par rapport à la personnalité des gens mis en cause. Après, moi, je suis pas spécialiste de harcèlement. Je pense que il y a beaucoup de violence entre les jeunes. Ce que je trouve surtout, c'est que ce que je constate beaucoup, c'est que dans nos sociétés, derrière l'apparence de la normalisation de l'homosexualité, etc., y compris dans les milieux les plus bobos et les plus progressistes, il reste très souvent un fond d'homophobie. Les gens n'hésitent pas à vous dire qu'ils ne voudraient pas que leur enfant soit homosexuel. Ils laissent très volontiers échapper. Ils y traitent telle ou telle personne de avec des mots, PD, folle, etc. Qui font que dans l'inconscient collectif, l'homophobie est quelque chose qui subsiste beaucoup. Et je crois que forcément, dans les jeunes générations, elles sont pas étanches à tout ça, et je pense qu'elles reproduisent aussi ce qu'elles connaissent chez elles, et ça peut aboutir à des drames. Donc moi, je crois que c'est surtout là-dessus qu'il y a quelque chose à faire.
Et faire de l'information à l'école, parce que la maman, ce qu'elle regrette, c'est qu'elle dit j'avais alerté. Il n'y avait pas eu suffisamment de prise de conscience.
Est-ce qu'il faut des faits exemplaires?
C'est pas de prise. Moi, je suis d'accord avec Charles sur le fait que l'exemplarité, ça sert à rien parce que dans l'absolu, moi, je considère, et encore une fois, je suis concernée. D'abord, il n'y a pas que du harcèlement pour l'homosexualité. Il y a des tas d'enfants, il y a encore, je le répète, 6% de collégiens qui sont harcelés et 2% au lycée qui sont harcelés quotidiennement au sein de l'établissement. Premier constat, c'est que l'établissement, l'éducation nationale ne donne pas assez d'outils au personnel éducatif, au personnel qui encadre nos enfants, pour sévir contre les harceleurs. Tu vois, moi j'ai porté plainte, j'ai demandé à faire convoquer les parents ne viennent pas. Le petit a été viré depuis l'année dernière plusieurs fois, 3 jours, mais il ne le prend pas comme une punition, il le prend comme des vacances. Donc déjà, dans un premier lieu, quand tu as un personnel qui est mobilisé, les outils sont insuffisants. Ça, c'est la première chose. Que tu sois harcelé parce que tu es calme, parce que tu es intelligent, parce que tu portes des lunettes, parce que tu as une bosse, parce que tu es homo, tu es harcelé. Et il y a un problème d'éducation avant tout, d'éducation à la maison et d'éducation à l'école. Parce que tu vois, j'ai demandé, moi, à la CPE, qu'elle organise une rencontre avec la classe, tu vois, de médiation, où moi, en tant que parent, je viens et je parle avec les élèves en disant quelles conséquences ça a de harceler un camarade sur lui, sur sa vie avec ses parents, sur sa fratrie quand il y a une fratrie, et quelles conséquences ça a sur le long terme. Parce que moi, j'ai l'ami, je lui rends hommage, Castelbon, qui s'est suicidé, l'ami de mon frère, il a été harcelé, y compris par mon frère le petit con, hein, tu vois, parce qu'il voilà, il s'amusait, pour eux c'était un jeu à l'époque, tu vois. Comme certains aujourd'hui, et là c'est volontaire, et là c'est un jeu, tu vois, pour appartenir à un groupe, etc. Et il s'est suicidé. Voilà, c'est suicidé à l'âge adulte, à 30 ans. Et j'ai un avocat qui intervient souvent chez BFM, qui m'a contacté quand j'ai disjoncté ici à l'écran par rapport à mon enfant, et qui m'a dit, je te remercie pour ce coup de gueule, parce que moi, j'ai été harcelée, mon fils a été harcelé, et aujourd'hui, je suis adulte et je travaille depuis 8 mois sur un documentaire, parce que ça a encore des conséquences dans ma vie. Il n'a pas été harcelé pour homophobie, il a été harcelé pour autre chose, mais il a été harcelé, que tu sois noir, que tu sois gros, peu importe, on te harcèle quand tu es différent. Ouais. Et en fait, il y a un problème d'éducation à la maison, il y a un problème d'éducation d'effet de groupe à l'école, tu vois, je pense qu'il devrait y avoir plus d'informations à l'école, et les outils, même s'ils font de la prison, ces enfants.
La question, est-ce que cette loi, parce que le fait nouveau, le harcèlement, malheureusement, c'est pas nouveau, il faut en parler, c'est bien, mais le fait nouveau, c'est l'application de cette loi. Là, on a 4 jeunes, est-ce que cette loi, est-ce qu'il faut être dur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut être dur, mais je suis pas sûr que la prison soit le plus adapté.
Oui, oui, c'est vrai, comme d'habitude, on répond avec une loi en France, alors qu'on pourrait, pardon, juste, on répond encore à la loi.
Voilà,
tu réponds
à côté, en fait.
On a un ministre de l'Éducation nationale qui a une autorité sur les collèges, bah, et qui est censé, en tout cas, qui en a une sur le plan légal, si tu veux, qui est investi d'une autorité sur les collèges et les lycées. Il y a un moment, c'est aussi au proviseur dans les établissements et aux professeurs.
On voit pas toujours tout.
Moi je trouve que ça parle.
On accable. Alors là, dans le cas de Lucas, la maman dit qu'elle avait alerté. Donc il y avait eu quand même une réunion.
Il
y avait une réunion. Là, il faut être honnête. Dans l'affaire Lucas, il y avait une réunion, etc. L'établissement était au courant, avait essayé d'agir. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Moi, je pense que on peut pas. Déjà, tu le vois pas toujours, parce que les harceleurs souvent ont honte d'être harcelés et ne disent même pas à leurs parents.
Les harcelés
ont honte d'être harcelés. Et parfois, ils ne le disent même pas à leurs parents. Donc, encore moins à leurs professeurs. Donc, c'est toujours un peu facile d'accabler les profs, etc. C'est compliqué, le harcèlement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a du mal. Est-ce que cette loi est utile? Est-ce qu'il faut taper?
Moi, c'est une vraie question pour moi. Qu'est-ce que ça va changer, même si ces gosses font de la prison derrière, quoi?
C'est pas la solution.
Mais quel message t'envoies? T'envoies un message à des gosses de 7, 8, 10 ans?
Non, mais là, ils ont 13 ans. Ils n'ont pas.
Ouais, mais c'est pareil. Est-ce que à 13 ans, parce que.
À 13 ans, tu sais quand tu
Parce qu'il y a des gosses qui sont passés devant un tribunal parce qu'ils étaient harceleurs à 500 km de chez toi, il y a 7 ans ou 8 ans ou 2 ans ou 6 mois ou 1 mois. Est-ce que toi, ça va t'empêcher, ça va changer ton comportement dans la cour de récré? Moi, j'en suis pas persuadé. Je crois que c'est aussi
une
espèce d'école
TGI.
De la vie, quoi. Enfin.
Des TGI, c'est une solution,
non,
la TGI.
Non, je
tige, tu veux dire.
Je peux développer une idée, Didier, bordel. La cour de récréation, c'est la société que tu vas, la cour de récréation quand t'as de 7 à 15 ans.
On disait la loi du préau.
C'est la société que tu vas croiser, et à un moment donné.
Là,
enfin, tu vois, moi, si je prends mon exemple personnel, je crois pas que je l'ai beaucoup raconté, ça. De 7 à 11 ans, j'étais un petit gros, plutôt moqué. Alors, jamais harcelé, mais plutôt moqué. Et un jour, j'ai décidé de rentrer à coup de poing, de changer de catégorie, quoi. Et je me suis certainement, après, comporté comme un connard, quoi. Mais à un moment donné, cette prise de conscience,
Ça veut dire quoi? T'as corrigé ceux qui te harcelaient, quoi, c'est ça?
Ouais, puis je suis plutôt passé dans le camp des harceleurs. Voilà. Enfin, c'est l'histoire de la vie, ça. C'est l'histoire de la nature. C'est il y a les prédateurs et il y a les proies, quoi. Et à un moment donné, dans une cour de récréation,
c'est bien comme vision des choses.
Ben moi, je suis désolé. Dans une cour de récréation, il y a des prédateurs, oui, et il y a des proies. Ouais, et moi, je crois pas que c'est la justice. Qui va abolir ça. Mais bien sûr qu'il faut des outils, bien sûr qu'il y a de la prévention, bien sûr que c'est de l'éducation.
Je suis désolé, moi,
je simplifie le truc, mais je pense que c'est l'histoire de la vie.
Par exemple, dans le collège où j'étais, si on était convoqué chez la directrice du collège, on était mortifiés.
Ouais.
On était complètement terrorisés.
Parce qu'il y avait un respect de la
hiérarchie. L'idée de se retrouver dans le bureau. Je me souviens très bien de cette dame. Elle ressemblait un peu à Michel Alliot-Marie dans le genre. Tu vois le genre.
Ouais.
Tu sais, tailleur jupe, nana, très sèche. Mais t'avais pas envie d'être convoqué chez Michel Alliot-Marie, je peux te dire.
Le directeur, c'était un père.
Pour moi, c'est le directeur de ces établissements.
Il y a quelque chose dont on parle.
Attention. Ça empêchait pas le harcèlement à l'époque.
Sauf que, tu vois, Charles, ce que je voulais dire, c'était pour ça que je témoignais, c'est que moi, je me suis battu dans la cour de récré, mais la bagarre, elle était forcément cachée. Parce que si la bagarre, elle était au grand jour, je te garantis que ça finissait mal.
Il y a quelque chose dont on ne parle pas et qui, pour moi, est
visible. Tout n'est pas visible. Et il y a aussi les réseaux sociaux aujourd'hui.
Et puis ensuite,
la partie immergée de l'iceberg, elle continuera d'exister, même si les réseaux sociaux.
Céline, dont le fils est harcelé.
Je peux ou pas?
Vas-y.
Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est le poids des écrans, et notamment des jeux de guerre et compagnie, des consoles. Parce que tu vois, les minots, pour eux, c'est la normalité. Il y a des minots qui sont connectés 3 heures par jour, tu vois, sur des jeux qui sont just limit en termes de... Enfin, je ne joue pas, je n'ai pas de console, mais c'est pas on construit un monde meilleur, on est gentil avec notre voisin. C'est la guerre, c'est tu tues ton truc, c'est tu conquières, etc. C'est ça, non? Je ne sais pas. Ouais, et donc, à un moment donné, il y a une vraie place d'éducation qui est faite par les écrans et par les jeux auxquels il faut s'inquiéter parce que les enfants y ont accès nos limites.
Nous sommes avec Céline. Céline, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Céline. Madame. Vous vouliez témoigner du côté de la Meurthe-et-Moselle parce que votre fils est victime de harcèlement.
Oui, c'est ça. Il a été victime de harcèlement à 2 reprises. Il était dans un collège où on l'a frappé. Il a été un moment avant de me le dire qu'il était frappé, que ça n'allait plus à l'école, qu'on se moquait de lui parce que mon fils a des troubles dyslexiques. Donc, il a juste un ordinateur et c'est tout. Hein. Rien de plus. Il est comme vous et moi. Hein. Je suis qui travaille avec ordinateur. Et on se moquait de lui parce que t'es un handicapé, il faut pas se mettre assis à côté de l'handicapé. On est arrivé à le frapper quand il attendait le bus, ce qui fait qu'il a été un moment avant de me le dire, il n'a plus voulu aller à l'école. Réflexe tout de suite, on l'a mis dans une école privée en se disant les enfants sont bien élevés dans une école privée. Et dans une école privée, ça a continué. Il y a un élève, parce que mon fils est très calme, très posé, il a l'école pour s'inscrire et pas pour faire le cirque. Et on a continué à l'embêter, à lui dire que t'as plus le droit de parler aux autres, tu dois être tout seul, t'as pas le droit d'aller avec les autres. Un élève, à un moment, il s'est levé, il a dit non, je vais pas à l'école, c'est fini, je veux plus, je ne bouge plus, j'y vais plus. Il mangeait plus, il sortait plus, il faisait plus rien. Je me suis rapprochée d'associations pour harcèlement où c'est très, très, très compliqué de les avoir. J'ai vraiment eu du mal à les avoir. Ils m'ont dit, il faut aller signaler ça, faire une main courante à la gendarmerie. La gendarmerie m'a dit, non, ce n'est plus une main courante. Maintenant, c'est du harcèlement. Bon, votre fils a été victime. On l'empêche de parler aux autres. On se moque de lui. On lui met du gel hydroalcoolique sur la tête. On le suit jusqu'à l'arrêt de bus. Non, c'est du harcèlement. J'ai posé plainte. Ça fait faire 1 an. Je n'ai toujours pas une seule nouvelle de la plainte. Comment je fais pour mettre mon fils le matin à l'école quand il pleure, qu'il ne veut plus y aller?
Il a quel âge?
Il a 14 ans. Ouais, il a été scolarisé depuis 4e et 3e.
Et là, vous avez été voir l'établissement, il a réagi comment l'établissement?
Eh ben, l'établissement dans le premier collège public, donc ça a commencé un petit peu à se dégrader. Hein. Je ne sais pas, hein, ça n'a pas été sanctionné tout de suite apparemment parce qu'il y aurait des protocoles à suivre. Donc mon fils ne voulait plus aller à l'école parce qu'il savait qu'il allait retomber sur cet enfant qui l'a frappé plusieurs fois au testicule. Hein. Et l'enfant qui tape mon fils, lui, il était à l'école.
Et cet enfant, il a des parents? Est-ce qu'ils ont été convoqués?
Alors je crois que cet enfant était un enfant issu d'une famille d'accueil.
Ah oui.
Voilà. Non, mais il y a des enfants qui ont leurs deux parents. En l'occurrence,
après, je pense
un des deux, là.
Il y a l'éducation qui rentre en jeu. Il n'y a pas seulement le fait qu'il faut arrêter de dire que c'est que l'éducation nationale qui est responsable.
Je suis d'accord avec vous, madame.
Il y a des parents qui sont responsables.
Exactement. L'éducation, tout court.
L'éducation des enfants. Moi, mes enfants, ils sont élevés pour dire bonjour, au revoir, être poli. Vous allez à l'école pour vous instruire, avoir un bon métier. Vous n'allez pas à l'école pour faire le cirque.
Après, vous savez, il y a des parents qui parfois, il y a des parents qui parfois tombent à la renverse quand ils apprennent que leur fils est harcèle. Oui, mais ça arrive aussi.
Ça arrive. Et voilà.
Mais attendez, dans l'école privée, madame, ils ont réagi comment
dans l'école privée, ils étaient c'était un peu bizarre. L'élève là, on n'a jamais eu de soucis avec. Bon, alors mon fils, Il est tout maigre, il est pas très grand, l'autre c'était une armoire à glace, hein. Et ils étaient un peu surpris, ouais. C'était
mais ils ont rien fait. Mais ils convoquent pas dans ce cas-là, ils convoquent pas les protagonistes.
Ah ben non, ils pouvaient pas comparer. La mère, elle était au bled. Voilà ce qu'on m'a dit. La mère est partie au bled.
Ah bon, oui, mais le môme, il peut être convoqué, mis face à ses agissements.
Parce que vous pensez que les enfants qui ont harcelé le pauvre petit garçon qui en arrivait à se suicider, vous croyez pas que ils vont commencer à nier les autres, vous savez.
Maintenant, ils reconnaissent.
Oui, mais parce qu'on a
10 ans de garde à vue, ça change tout.
Oui, la garde à vue, c'est pas.
Non, mais peut-être que c'est une bonne chose d'aller vers la judiciarisation.
Tu dis que la loi.
Non, je sais pas qu'est-ce que la peine exemplaire de prison va changer. Voilà.
Peut-être que la garde à vue, ça fait réfléchir.
Merci. Oui, Céline,
quand les policiers viennent à l'école, tu vois, ça change.
Votre fils, comment va-t-il aujourd'hui?
Mon fils, comment il va? Il refuse d'aller à l'école. Moi, j'ai essayé de me battre, ça fait depuis l'année dernière, pour avoir des cours, quelques heures de cours à la maison. Quand ça passe, j'arrive à avoir une professeure qui vient une heure par semaine et une autre qui fait des cours à distance, en visio. Il a 3 heures de cours par semaine, il va mal, il ne veut plus retourner à l'école, il ne peut plus, il est incapable.
Mince. Et il n'y a pas moyen de trouver une autre école? Il n'y a pas moyen de trouver une autre école?
Il y a des écoles, donc.
Le problème, c'est qu'il a plus confiance à l'adulte.
Oui, c'est ça.
Vous avez la gendarmerie, qu'on vous dit qu'on ferait quelque chose et que ça fait un an qu'il y en ait fait.
Oui, donc là, il y a un problème parce qu'on fait voter des lois, mais on les applique pas. Parce que là, la loi les applique.
Merci de ce témoignage. Excusez-moi, je vais compléter. Non, parce que t'as pas besoin d'une loi, il faut des outils. Le collège de mon fils réagit. Il fait encore une fois, je le redis.
Bon, enfin, là, t'avais poussé un coup de gueule, donc.
Non, mais avant le coup de gueule, l'année dernière aussi, ils ont réagi, mais il a recommencé, le minot.
Donc il faut bien des outils.
Les parents ont été convoqués après mon coup de gueule. Ils ont été convoqués. Il est sous mesure de la DAP, le petit. Donc c'est des éducateurs spécialisés du conseil départemental. Il va partir là, à la fin du mois, là. Avant les vacances scolaires, il va aller dans une classe relais, mais que pour 3 mois. Et après, il va revenir dans la classe où il y a mon fils. Donc, c'est mesures qui sont inadaptées.
Donc,
c'est ça.
Tu donnes raison à cette
nouvelle
loi.
Merci, Céline. On verra ce que ça donne aussi, les peines qui sont prononcées contre ces 4 jeunes
de
13 ans. Donc, est-ce que ça peut être un jugement pour l'exemple? C'est la question qu'on vous a posée là pendant notre quart d'heure de discussion.
Des enfants de 13 ans.
Vous dites quand même oui à plus de 84%. On va repasser par le 32-16 du côté de la Haute-Garonne. Bonjour Adrien.
Oui, allô.
Bonjour Adrien, c'est vous qui avez été tiré au sort et qui gagnez les vacances.
Bravo.
Oh, super, merci RMC, merci les GG.
Mais je vous en prie, c'est Adrien, cool. C'est votre petit coup de chance du jour en envoyant vacances par SMS 732-16. Vous êtes en Haute-Garonne, alors vous avez une idée de l'endroit où vous voudrez partir? La mer, la montagne, la campagne, mon cher Adrien?
Oui, à la mer.
À la mer.
Bravo, bon choix.
Oui. Vous avez la Corse, vous avez la Méditerranée, vous avez l'Atlantique.
Allez en Corse, n'allez pas. L'Atlantique, il fait froid.
Je vous en prie, Adrien.
L'Atlantique, c'est vraiment le plan B.
Vous pourrez.
Quand t'as pas les moyens d'aller en Corse,
dis celui
quoi.
Qui va à l'île de Ré régulièrement.
Vous pourrez partir en famille. Vous choisissez votre destination. Faites comme vous le voulez. Comme vous le sentez, surtout passez de bonnes vacances.
Profitez-en.
Allez, dans un instant, GG 7 et match avec les accusations de Gérald Darmanin, sa petite phrase au ministre de l'Intérieur. La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Il a raison pour Didier et Olivier. Il a tort pour Kauter et Charles. Et vous venez départager tout ce beau monde.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. À l'instant, on vient de faire gagner les vacances, les amis, mais vous les gagnez tout à l'heure avec Estelle Denis. Faut pas oublier de jouer avec notre camarade Estelle dans Estelle Midi entre midi et 15h en envoyant vacances par SMS 732-16. Nous, on est plutôt là sur la grève, la journée de mobilisation demain et les accusations de Gérald Darmanin.
RMC.
GG, 7 et match.
Qu'a dit Gérald Darmanin dans le journal Le Parisien et qui nous vaut un GG 7 et match? Le ministre de l'Intérieur a dénoncé le profond mépris pour de la valeur travail d'une partie de la gauche qu'il accuse de chercher à bordéliser le pays pour mettre notre système de retraite à l'équilibre. Oui, il faut travailler plus, il faut faire ce choix, il faut l'assumer. Nous le faisons. De l'autre côté, il y a un camp qui ne cherche qu'à mettre la pagaille, c'est la NUPES et la France insoumise. Alors, est-ce que Gérald Darmanin a raison? La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. D'accord, Didier et Olivier. Pas d'accord, Kauter et Charles. La minute à mettre Consigny, 60 secondes chrono. C'est parti.
Moi, je suis contre l'autoritarisme politique. Et je pense qu'on ne peut pas disqualifier les arguments de ces contradicteurs en les balayant d'un revers de la main et en disant... ce qu'a dit Monsieur Darmanin. Moi, je pense qu'il fait de la politique. Je pense qu'il est focalisé sur 2027, qu'il est en compétition avec Bruno Le Maire et Édouard Philippe pour reprendre la place du centre droit, et qu'il essaye, en faisant en plus un peu du gros rouge qui tâche, d'amener à lui les électeurs de droite. Ça me paraît quand même être une politique pas très élaborée. Je pense qu'il y a un problème avec la justice, au sens noble du terme, sous les quinquennats Macron. Je pense que ce sont des quinquennats injustes, et je considère dans ces conditions-là que le débat politique est légitime, et que tant qu'ils n'arriveront pas à faire autre chose que de gouverner pour les gens les plus privilégiés de ce pays, ils auront des contestations.
2, 1.
Bravo.
Chapeau, Maître Consigny, les 60 secondes. Didier, réponse.
Bah, écoute, je voudrais répondre à Charles que ce qu'il appelle des arguments de balayer d'un revers de main, il y a des faits aussi, quoi. Quand Darmanin, il dit la valeur travail est en train de baisser, elle est fustigée par la gauche, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un rapport qui te décrit l'après-Covid où les gens, ils aspirent plus à aller en vacances que d'aller au travail, et la NUPES particulièrement et LFI surfent sur cette vague et emmènent les gens là-dessus. Quand il y a 7000 amendements déposés pour une semaine d'examen, je suis désolé. Alors lui, il appelle ça la bordélisation, mais je crois qu'il y a quand même aussi une volonté de bloquer le fonctionnement logique de la République. Voilà, c'est des faits. Ce qu'il évoque Darmanin, c'est des faits.
Je rajouterais
quand même que de la politique.
Il y a un mélange des genres. Que les syndicats appellent à faire grève et à se mobiliser contre la réforme des retraites, ils sont complètement dans leur rôle. Le rôle, moi, je pense, d'un député, c'est pas d'aller manifester dans la rue. Pourquoi et d'organiser ses propres manifestations. D'ailleurs, la manifestation qui a été organisée par les Jeunes Insoumis a été un bide absolu. Les médias, avec complaisance, ont repris ce chiffre de 150 000. S'il y avait 10 000 personnes, c'est bien un exploit. Donc, parce que, effectivement, c'est à Philippe Martinez, Laurent Berger et les autres d'organiser la fronde sociale. Le politique, il est là pour siéger à l'Assemblée lorsqu'il est député, travailler dans sa mairie, pas pour foutre le bordel dans la rue. Et je pense que du coup Marine Le Pen a raison de dire que c'est pas le rôle des députés RN, alors qu'elle est contre la réforme, d'aller manifester, mais plutôt d'essayer à l'Assemblée d'amender et d'éviter que cette réforme passe. Et je pense que la France Insoumise, d'ailleurs pour l'instant, se fait plutôt dégager par les syndicats, parce qu'ils n'ont pas envie de voir Philippe Martinez, ils n'ont pas envie de voir Mélenchon à côté de lui. Donc la France Insoumise devrait se concentrer sur son travail parlementaire, en tout cas pour les députés. Alors c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon n'est plus parlementaire, visiblement ça lui manque, et laisser les syndicats dans leur rôle. Gérald Darmanin a raison en ce sens.
Oui, mais le speech qu'on a là, parle pas des manifs, parle des 7000 amendements déposés, et ça c'est le rôle du député, c'est le rôle de la NUPES.
Ils l'ont supprimé d'ailleurs.
Oui, mais peu importe. Oui, mais peu importe. Donc c'est de ça qu'on parle, c'est pas des manifestations, donc il faut pas décaler le sujet. Il faut rappeler à Gérald Darmanin que la France, c'est bien le bordel depuis des années, et en particulier depuis l'arrivée de Macron. On a vu voir de l'hyperviolence débarquer dans les manifestations. Les flics étaient de plus en plus, donc ça c'est des directives de Beauvau, c'est pas les directives de ma grand-mère, de sa tombe, tu vois. Donc à un moment donné, le bordel, c'est lui qui l'organise aussi avec ses copains, et c'est ses prédécesseurs. Les Gilets jaunes, ils sont pas apparus à cause de Mélenchon ou à cause de Martinez. Ils sont apparus parce qu'il y a des problèmes dans le pays qui sont pas réglé par les gouvernants. Donc, à un moment donné, si on avait, depuis quelques années, et en particulier, depuis le premier quinquennat de Macron, des politiques qui travaillent pour le sens commun, le pays ne serait pas en mode bordel. Et je rappelle que ce bordel ne vient pas de la NUP, mais de la non-action, de l'action inefficace du gouvernement depuis quelques décennies.
Bah, c'est faux, qu'à hauteur ce que tu dis. Parce que quand tu vas volontairement déposer 7000 amendements, tu vas essayer d'obstruer le fonctionnement logique de l'Assemblée.
Mais c'est le rôle de l'opposition.
Parce qu'il y a tout un jeu là derrière de dire pour faire retirer l'intégralité. Parce que c'est ce qu'ils disent quand même. On n'est pas sur l'amendement et sur le travail du texte. On est sur le retrait du texte.
Oui.
Et on va obstruer le fonctionnement de l'Assemblée nationale avec 7000 amendements.
Et alors, c'est une
tactique. Parce que dans les faits, le texte n'est pas améliorable.
On peut pas considérer qu'on est des élus responsables quand on fait ça.
Didier,
quoi.
Je suis désolé. Quand tu es responsable politique, tu utilises tous les moyens que tu as à ta disposition pour contrer un texte législatif qui te paraît aller dans un sens qui ne te convient pas. Je vois pas le problème de déposer 7000 amendements, de manifester,
c'est leur taf.
Puisqu'en face, ils avancent de toute façon comme une espèce de bulldozer et qu'ils ont déjà dit qu'en réalité, il n'y avait pas vraiment de dialogue possible et que tout ce qu'ils ont appelé depuis des semaines, concertation, dialogue, négociation, n'était qu'un bullshit intégral.
Exactement.
Et en fait, ils ont menti comme ils font tout le temps. De toute façon, les macronistes, ils disent tout le temps le contraire de ce qu'ils font. Et ils prennent tout le monde pour des cons.
Sur cette réforme.
Ils prennent tout. Oui, mais ils prennent sur concertation, négociation, etc.
Mais
c'est pas vrai.
Cette réforme avait été annoncée par Macron.
Oui, mais d'accord. Moi, je la soutiens.
Mais tu négocies pas.
Il ne voulait pas. Mais je constate qu'il ne voulait pas vraiment négocier.
Tu parles de la forme, pas du fond, donc.
Et je parle des deux. Il n'y avait pas de posture de, il n'y avait pas de vraie volonté de négocier.
Reconnaissez qu'aujourd'hui, en 2023, c'est ridicule. Autant le 49.3, moi, je suis très critique. Je pense que ça devrait être supprimé. Ça devrait plus exister. Mais autant les 7000 amendements, c'est aussi ridicule.
Alors, je te pose une question.
Aussi ridicule.
Ça veut dire
si on accuse le gouvernement de vouloir passer en force.
C'est du jeu parlementaire.
Alors l'opposition.
Alors, c'est du jeu parlementaire.
Alors, je te pose une question, mon cher Olivier. Je te pose une question très bête aussi, mais pas méchante. Donc, si tu ne veux pas que la NUPS manifeste et que c'est le rôle des syndicats. Et si tu trouves que déposer des amendements
dans la rue, moi, je pense. Pardon.
Et si tu trouves que déposer des amendements est abusif, il leur reste quoi comme outil ? La révolution, brûler le président ?
Non, gagner des élections. Jean-Luc Mélenchon a perdu trois fois l'élection présidentielle.
Dans notre pays, on est dans un pays démocratique et pas dans une dictature. Et quand tu es élu, en plus avec un minimum de voix, tu n'as pas autorité sur tout. Autrement, tu rejoins Poutine.
Oui,
donc l'opposition a un rôle et un rôle de contestation. Pour co-construire les politiques publiques de demain.
Oui, mais du coup, t'as raison, Kauter, mais l'opposition, du coup, n'a pas le pouvoir de faire retirer l'intégralité des textes.
Je suis désolé.
Voilà,
quand
mais
tu as 90,
mais quand tu as prévu 90, c'est l'opposition et ils sont minoritaires.
Donc,
à un moment donné, tu as 90% de Français qui ne veulent pas d'une réforme, c'est le rôle de l'opposition de soutenir les Français.
Dans ton monde idéal, les sondages gouvernent.
Pourquoi voulez-vous d'une opposition couchée ? En fait, vous êtes
pas
bourgeois. Vous êtes des bourgeois. Et vous voulez un
c'est
ordre.
C'est Charles qui nous le dit.
Mais oui, pardon de vous le dire. Mais oui.
Ça me fait marrer.
Et vous voulez un ordre bourgeois.
Vous êtes
comme les ministres
pas de contestation
qui viennent le matin à la radio pour saluer des manifestations responsables. Ah, ils sont contents parce qu'il y a
pas de casse.
Oui, donc ils veulent que les gens
soient.
Ils veulent. Mais non, c'est pas que je suis pour la violence, mais moi je ne veux pas que les Français soient des moutons. Et donc je suis désolé. Je ne supporte pas cette espèce d'attitude de petit bourgeois d'être content quand ils ont simplement manifesté bien sa jambe, mais que surtout ça ne va rien changer.
Mais à quoi ça sert de manifester si on ne change rien ?
Je vois bien leur terreur de petit bourgeois.
À quoi ça sert de manifester si c'est pour pas changer les choses ?
Le macronisme, c'est les petits bourgeois au pouvoir. Moi, je
pense la violence, c'est pas les bourgeois qui sont
responsables. Moi, je pense que la France vaut mieux que ça.
Ah si, c'est les petits bourgeois.
Donc, je suis pour des oppositions qui soient fortes.
Ceux qui subissent la violence, c'est pas les petits bourgeois, ceux qui subissent la violence, c'est les commerçants des centres-villes. Hein,
oui, mais excuse-moi, les petits amarres à deux balles, les enfants de riches qui vont manifester,
je constate qu'à chaque fois.
C'est la mi-temps. Alors, est-ce qu'effectivement la NUPES bordélise le pays, ne cherche qu'à bordéliser le pays ? Oui, non. On va voir où on en est. Attention, DAC, pas DAC. C'est parti, on envoie le chiffre, les amis.
Mais je croyais que tu le donnais après la pub.
DAC, là, non, la DAC, non, 55.
Vous voyez, vous êtes qu'à 55, DAC, c'est nul.
C'est 45.
Voilà, la NUPES,
vous
dans
êtes
toute
nul.
Sa splendeur.
45,
ils pensent qu'il y a de majoritaire. Ah, voilà. T'es à 45, t'as gagné.
Vous êtes mauvais.
J'ai perdu, mais j'ai quand même gagné.
Vous avez convaincu.
Parce que les ouvriers travaillent, ils ne sont pas sur leurs écrans.
Continue la NUPES, tu repenses que Mélenchon.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
9h30.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Kauter Ben Mohamed, Didier Giraud et Charles Consigny. La NUPES accusée de vouloir bordéliser le pays par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'est notre GG 7 et match. Marc nous appelle des Alpes-Maritimes de Nice. Bonjour Marc.
Bonjour à tous.
Mon cher Marc, quelle est votre équipe ? DAC ou pas DAC ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un vrai bazar qu'ils cherchent à mettre dans ce pays. Et je n'arrive pas à comprendre comment à peine 2% de la population arrive à bloquer tout un pays. Pour moi, c'est inadmissible. Et déposer 7000, je crois, amendements en mettant virgule, point virgule, double point, etc. Je ne vois pas en quoi ça fera avancer les choses. D'autant plus que, si j'ai bien écouté, la majorité des réformes sera appliquée et tous les régimes spéciaux qui bloquent tout le pays, n'est-ce pas ? Tous les régimes spéciaux ne sont pas touchés pour l'instant. Ça sera pour les nouveaux salariés.
Oui, c'est la clause du grand-père.
Donc je ne comprends pas à quoi ça sert maintenant. Peut-être que mon analyse n'est pas bonne.
Mon cher Marc, les 2% du pays que vous dites que vous comprenez pas comment ils peuvent bloquer le pays, c'est les 2% du pays qui ont tenu le pays debout, entre autres, pendant la crise du Covid. Entre autres, ils n'étaient pas seuls, il y en avait d'autres aussi. Mais principalement, les gens qui sont mobilisés aujourd'hui, c'est les gens. Oui, oui, mon cher. Tu avais de l'énergie quand tu étais pendant le Covid.
Banque de France.
Excuse-moi, tu avais de l'énergie quand tu étais.
Manifeste.
Oui, quand tu... On avait de l'électricité, on avait des infirmières, on avait des supermarchés qui étaient ouverts, on avait des femmes de ménage, on avait des gens de sécurité, on avait des aides-soignantes, on avait des femmes de ménage et des aides ménagères qui allaient chez les personnes âgées qui sont isolées. Et donc, c'est. Ben, tu sais, tout à l'heure, on a eu un monsieur qui a dit. Parce que tu vois, le monsieur tout à l'heure que nous avons eu ce matin a dit.
Tout à l'heure en nous disant, on parle des 7000 amendements dans l'hémicycle.
Je
répondais. Tu fais que parler des manifs.
Je répondais au monsieur qui disait comment 2% du pays peuvent bloquer le. C'est les 2% qui tiennent aussi le pays debout quand il y a une crise. Voilà, et il ne faut pas les oublier. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas manifester qu'on ne doit pas parler d'eux et mettre en avant les difficultés.
Alors, allez-y,
excuse-moi. Marc, allez-y.
Mais je suis.
Si tu travailles pas, c'est moins grave que si elle travaille pas une infirmière.
Je suis tout à fait d'accord, mais donc la prochaine fois, ça sera plus que 500 000 personnes, et 500 000 personnes bloqueront un pays. Il y a 40 millions de foyers Cisco en France, donc un million de personnes en grève, ça représente 2,5.
Alors après, Marc, la France n'a jamais manifesté à 60 millions. Je veux dire, ça n'existe pas.
Nulle part.
Il
n'y
a aucun mouvement social et dans aucun pays du monde. Alors. Donc,
je suis tout à fait d'accord.
Et des révolutions ont parfois été organisées avec des minorités. Donc ça,
c'est toujours
Là où je suis d'accord avec vous, Marc, moi je trouve que pour le moment, dans la rue, on retrouve toujours les mêmes, entre guillemets,
pouvoir de nuisance,
les bastions de la fonction publique,
pouvoir de mobilisation, pas de nuisance.
Le transport, les raffineries, là où la CGT est forte, etc. On n'a pas vu beaucoup de salariés du privé pour l'instant dans la rue, et on va voir s'ils arrivent.
J'ai souvenance des grèves de 95, moi j'étais à Paris à l'époque. Ouais. Si les transports ne sont pas en grève, mais tous les gens vont bosser. Il n'y a que les fonctionnaires qui vont faire grève. Dans le privé, on ne fait pas grève, c'est pas vrai.
En tout cas, Darmanin a réussi son coup, puisque c'est une manière pour lui de cliver, pour essayer de ramener quelques Français rendre favorables à cette réforme des retraites. Et je pense que ça va.
En fait, je crois que c'est pas ça son calcul. Il sait que les Français, majoritairement, sont contre cette réforme, je pense. Et que de toute façon, la bataille est perdue.
Oui, mais en tout cas, il veut pas qu'ils aillent.
Mais en revanche, on peut être contre cette réforme et contre le bordel dans la rue. Voilà.
Il n'y a pas le bordel dans la rue, mon cher Olivier. Vous le fantasmez, le bordel. C'est vous qui le créez sur les plateaux télé. Il n'y a rien comme bordel. Moi, j'ai manifesté toute ma vie. Le bordel.
Il y aura du bordel,
le bordel. Ouais, il n'y aura pas de bordel. Pourquoi? Vous êtes qui? Oui, mais c'est pas ça le bordel. Le bordel, c'est de prendre un LBD dans les yeux quand tu manifestes avec tes enfants. Le bordel, c'est de ne pas pouvoir manifester tranquillement pour défendre tes droits. Non,
c'est pas bloqué, c'est pas de problème.
Non, c'est pas bloqué. Les gens, ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit de se battre pour leur retraite, celle de leurs enfants. C'est un droit fondamental.
On a le droit de dire que ces journées, c'est des journées qui coûtent cher à l'économie française.
Qui coûtent rien, c'est un investissement. Il faut arrêter de dire. Tu sais, les mots, ils ont un sens, d'accord? Ça coûte rien. C'est un investissement pour l'avenir. C'est un investissement pour bien vivre demain. C'est un investissement.
Toutes tes copines ménagères précaires de l'Est de Paris, parce qu'elles voudront aller demain travailler à l'Ouest de Paris.
Oui.
Tu leur expliqueras que c'est un investissement.
Tu sais ce que je leur dis à toutes mes copines, parce que j'ai été femme de ménage, moi. Donc à toutes mes copines qui sont encore aujourd'hui femmes de ménage. Et à toutes les personnes qui sont dans un emploi. Oui, j'ai été femme de ménage quand j'ai été étudiante. Donc à toutes ces personnes qui sont dans un emploi précaire, je les invite à investir dans l'avenir et à nous rejoindre demain et à gonfler les rangs dans toutes les rues de France, les petites villes et les grandes, pour montrer à ce gouvernement qu'encore une fois, nous ne sommes pas les pigeons de ce gouvernement.
Attendez, je voudrais qu'on revienne.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à un moment donné, il faut juste être logique. Moi, je suis retraité, j'ai commencé à bosser à l'âge de 15 ans, d'accord. J'ai fait, juste pour la petite histoire, j'ai fait 20 ans en France et 20 ans à l'étranger. Donc, le système de retraite par points, moi, je suis à 2000% d'accord. Et si la France l'avait, tout le monde serait bien content, parce que quand je vois la différence des deux traitements de retraite, c'est complètement différent. Maintenant, la seule chose que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi en France, la fonction publique a le droit de faire grève? Ce n'est pas normal. Il faut que ça soit comme dans tous les autres pays. La fonction publique n'a pas le droit de faire grève.
Et pourquoi?
Mais parce que c'est un sacerdoce, c'est comme un médecin.
Oui.
Les pompiers.
Même dans les transports, il faudra un service minimum. Il faudrait un service minimum dans les transports, c'est normal.
Mais non.
Si y a pas, en Italie, il y en a un et ça choque.
Si on n'a pas de pouvoir de nuisance, comme le dit Didier, on n'a pas de résultat, en fait. Tant que tu. C'est malheureux. Mais tant que tu handicapes pas le pays, tu n'es pas pris.
Marc, vous êtes choqué de voir ces mairies qui vont fermer ou ces maires qui donnent des jours de congé pour aller faire la grève?
Mais c'est inadmissible. Le service public, où il est le service public? Il n'y a plus de service public à ce moment-là. Et donc on va obliger des
surtout c'est une privatisation des mairies.
Parce que la mairie va fermer, donc les gens, on va les compter comme des grévistes.
Mais j'irais même plus loin, Marc. Ça décrédibilise quand même tout le travail des députés d'opposition qui vont aller négocier, qui vont aller peut-être chercher un amendement qui va assouplir le texte. De dire aujourd'hui, c'est parce qu'on est nombreux dans la rue, c'est la rue qui gouverne, ça décrédibilise quand même le pouvoir des députés d'opposition.
Mais merci Marc d'avoir été avec nous. Merci Marc. Je vous souhaite
merci
une bonne journée.
Vous. Merci. Revoir, bonne
du côté
journée.
De Nice, surtout. À bientôt. Philippe dans l'Aude, du côté de Trèbes. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Bonjour Olivier. Philippe.
Bonjour Kauter. Je suis désolé, je vous aime bien, mais il y a des propos que vous ne pouvez pas tenir, Kauter.
C'est pas grave, on va être d'accord sur tout.
Ah non, mais on ne peut pas être d'accord sur le travail, madame. Je suis
c'est
désolé,
pas grave.
Parce que la réalité du travail à l'heure actuelle est une honte. Une honte. On ne trouve plus personne pour faire un CDI. Alors, on ne peut pas embaucher quelqu'un à 1 500 € sans savoir sa compétence. On ne peut pas embaucher quelqu'un à 2 000 € sans avoir sa compétence, sa tenue au travail, son assiduité, etc. Les syndicats, ils ont voulu faire, ils ont interdit la méritocratie. Ce que je trouve inadmissible dans une entreprise, c'est qu'on est tous payés pareil, mais on ne travaille pas pareil. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir de méritocratie dans une entreprise. C'est pour ça que je suis parti dans l'intérim pour être maître de mes horaires. Parce que je fais 50 à 70 heures par semaine et j'ai des salaires de 4 000 €.
Parce que vous êtes mieux payé, donc c'est vous qui l'avez choisi, monsieur. Mais vous savez,
il travaille pour être bien payé.
Il est intérimaire.
Dans
donc
quel
ça veut
secteur
dire que même s'il a une CDI, attends, il ne va pas.
Plus que 38 heures.
70 heures par semaine.
Dans quel secteur d'activité, Philippe?
Je suis bouché.
D'accord. Il est bouché, intérimaire, c'est écrit sur l'écran.
Je vais revenir.
Monsieur, vous savez ce qui se passe dans les entreprises?
Stop, Kauter, laissez-moi parler. On vient d'embaucher un boucher. Le mec, pendant 2 mois, il a travaillé comme un fou, en étant en pré-embauche.
Quand il est d'essai.
Il a son CDI, il ne bouge plus, il ne fait plus rien.
Oui, ça, c'est le problème.
Son boulot, c'est inadmissible.
C'est vrai.
Ouais, mais excuse-moi, c'est pas universel.
Ce que vous décrivez, Philippe,
c'est quand même fréquent comme
attitude. Allez-y, Philippe. Allez-y, ça arrive souvent ça.
Mais pas du tout.
Allez-y, Philippe.
C'est inadmissible. Et les gens qui arrivent, il y en a une là, on a une collègue de travail, elle est partie en dépression, elle avait trop de pression, la pauvre. Elle arrive, c'est quelqu'un qui arrive dans l'administration, elle est rentrée dans l'alimentation. La pauvre, elle a tenu 3 mois, quoi. Non, mais ça me déconne, quoi. C'est quoi? On est devenu de quoi ce pays? Le travail, justement, c'est ce qui valorise la vie d'un homme, la valorisation du travail. Ben, bien sûr. Non, mais ça me déconne, quoi. Tu te valorises comment en allant à la plage, hein?
Ben, je me valorise déjà en étant une bonne mère, en donnant un bon exemple à mon enfant, en lui donnant des bonnes valeurs, en l'accompagnant. Vous voyez, monsieur? Donc, il n'y a pas que le travail dans la vie. Le travail, pour moi, c'est fait pour payer des factures.
Point. Des bons exemples aux enfants et les hommes doivent travailler.
Et bien sûr. Mais où sont les hommes?
Et ça, c'est un pays qui serait bien.
Carcassonne-Marseille, j'aime bien.
Mais Philippe, parce que le point de départ de notre discussion, c'était de savoir si
le bordel, voilà,
la NUPES voulait bordéliser le pays.
Et donc. Bien sûr, ils ne cherchent qu'à ça. Et quand j'entends parler Mélenchon, c'est un mec qui gagne 8 000 € par mois, il veut partager l'argent des riches, mais surtout pas le sien, quoi. Franchement, parce que le jour où il voudra prendre l'argent aux riches, admettons, s'il est au pouvoir, mais ça n'arrivera jamais, et les riches, ils vont tous se barrer, on va faire quoi? Parce qu'après, Kauter, quand vous parlez comme ça, quand les gens, ils en ont marre de prendre les investisseurs en ont marre de prendre des gens en grève, etc., leur usine ne tourne pas, ils se cassent ailleurs. Et quand ils se cassent ailleurs, l'usine, elle ferme. Et après, tout le monde pleure dans la rue, oh merde, l'usine, elle a fermé. Telle pas fermé, ici a fermé, ici a fermé. Et après, tout le monde pleure. Et
Philippe, donné, calmez-vous, vous allez avoir une attaque, j'ai peur pour vous. Calmez-vous.
Philippe, non, Philippe, vous savez quoi? Vous parlez plus que Kauter, ça n'est pas.
C'est merveilleux. Est-ce que vous respirez? Non, non, mais je vais vous répondre parce que vous m'interpellez. Excusez-moi, on demande au peuple français de faire un effort et d'être patriote. Je demande le même effort aux ultra-riches. J'en demande pas plus. Chacun donne à la mesure. Monsieur, quand vous êtes un couple, vous pouvez gueuler, je peux gueuler plus fort que vous. Excusez-moi, vous gagnez 4000 euros. Si votre épouse gagne 15000 euros demain, si vous avez une épouse, elle va contribuer plus au foyer, c'est normal.
Parce qu'ils font déjà.
Bah, non, mais voilà. Et donc, en fait, on demande, moi, je demande juste, et en plus, je suis pas fan de Mélenchon, je le défends à chaque fois que je peux. Donc là, c'est un mauvais exemple, et c'est un mauvais procès que vous me faites. Ceci étant dit, je demande juste aux très, 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 très grandes fortunes de notre pays, et pas simplement aux gens qui gagnent 8 000 euros, je m'en fous des gens qui gagnent 8 000 euros. Je gagne à ceux qui font partie de ce club hyper sélect. Et en particulier, on a parlé de lui ce matin, Bernard Arnault, parce que c'est le plus riche du monde. Et tant mieux! Encore une fois, moi, je tends à ce qu'on devienne tous de plus en plus riches et de moins en moins de pauvres.
Ouais, ceci étant dit, monsieur. Comme il est bien riche, quand même.
Comment?
C'est en allant bosser, c'est en faisant des
mais, heures, mais justement, je demande à ce que les gens travaillent et qu'ils soient, la différence qu'il y a entre vous et moi, monsieur.
Ce qu'il dit, c'est qu'il faut bosser.
Je demande à ce que les gens soient mieux rémunérés pour leur travail. Et que ceux qui ont du fric fassent un effort qui soit plus important que ceux qui sont moins riches.
Attendez. C'est tout. Il faut le justifier.
Mais bien sûr qu'il faut le justifier, mais ne me dites pas que les gens. Excusez-moi. Moi, je considère comment que la personne la plus importante dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise, y compris à RMC, c'est la femme de ménage. Quand on rentre dans un endroit qui est complètement dégueulasse, il n'y a personne qui bosse. Donc que ce soit l'Élysée ou RMC, non, c'est pas démago, c'est la vérité. C'est la vérité.
C'est fini, attendez. Voilà, Philippe, je vous remercie d'avoir été
avec nous. Je termine l'invitation, mon propos. Philippe.
Non, mais Kauter, on ne comprend plus rien parce que vous parlez
des trucs très démago.
Mais non, c'est pas démago.
Charles, une seconde.
Attendez, Philippe. Kauter, tais-toi.
Tais-toi, mon pote. Tu me parles pas comme ça.
Tais-toi, Kauter.
Tais-toi, Olivier.
Philippe.
Chut.
Oui. Philippe. Est-ce que vous pouvez, vous avez pas envie de venir dans les grandes gueules un jour parce que moi je vous trouve formidable.
Quand vous voulez, Je viens de.
Ouais, mais ça va vous rajouter des heures de travail, Philippe.
C'est pas grave, c'est pas un problème. J'irai travailler le dimanche. C'est pas un problème.
Ah, il est bon, Philippe. Il faut bien revenir.
Ouais, ouais, ouais.
Là. Tu peux être là?
Vous allez venir les dimanches.
Non, non, parce qu'au bout de 10 minutes, on en on pète tout.
Non, mais t'imagines, tu mets le boucher face à, par exemple, Barbara Lefebvre.
T'as un plateau, écoutez-moi.
Allez, Philippe, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Alors, à bientôt, Philippe.
À bientôt,
raison,
Philippe.
Philippe, vive le travail.
Maxime Dijon, infirmier, bonjour.
On a pas dit le contraire.
Bonjour, Maxime. Max.
Maxime?
Est-ce qu'il est là, Maxime?
Ah, ça y est.
On a perdu Maxime.
Bon, pourtant, Dijon, on aurait eu quelqu'un de plus calme.
Ah, ben il est là, ça va? Vous êtes là, Max?
Oui, je suis là, Maxime.
Ouais. Maxime, alors dites-moi, est-ce que la NUPES cherche à bordéliser le pays, oui ou non?
Ben non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'en fait, on a une loi, ça fait plusieurs années maintenant que le gouvernement fait un peu ce qu'il veut à base de 49-3. Là, on a une loi qui est majoritairement, pour laquelle les Français ne sont pas. Majoritairement, on sait que économiquement, elle est pas viable. Enfin, c'est pas qu'elle est pas viable, mais en tout cas, elle est pas nécessaire, elle est pas indispensable. Le système des retraites, le Conseil d'orientation des retraites a bien spécifié que le système était fiable. En tout cas, il est fiable pendant une dizaine d'années. Et donc, il me paraît normal que on puisse réagir. Donc moi, j'aimerais poser la question au monsieur qui était là en disant interdire le droit de grève. Mais à quel moment, en fait, on peut interagir avec le gouvernement? C'est-à-dire que les 7000 amendements, effectivement, c'est une connerie. Mais comment faire autrement? On n'a pas le droit de manifester. Dès qu'on manifeste, les gens sont mis les uns contre les autres. Donc on dit aux gens...
C'est pas vrai que vous n'avez pas le droit de manifester. Il y a beaucoup de manifestations en France.
Oui, tout à fait. Mais par exemple, le précédent auditeur, bon, il appelle... Lui, il est révolté parce que les gens bloquent le pays. Mais comment on fait, en fait, pour interagir avec le gouvernement? Moi, j'aimerais qu'il m'explique comment on fait pour interagir avec le gouvernement.
Tout à fait.
La majorité des Français sont contre cette réforme. Cette réforme n'est pas indispensable au niveau économique. Donc, pourquoi appuyer sur le champignon et vouloir qu'elle passe en force, en fait? J'aimerais qu'on m'explique, en fait, qu'on fasse de la pédagogie.
Pour sauver le système.
Mais c'est pas vrai, puisque le Conseil d'orientation des retraites a dit que le système était viable.
Avec ce
gouvernement, bon, ils ont une orientation libérale. Ok, soit. Ils veulent privatiser.
Très, très libéral.
Ok, soit. C'est un fait, c'est pas bon.
Ah non, là, le système par répartition, c'est pas libéral, au contraire.
C'est l'inverse. Max, c'est fini. Maxime, vous aurez eu le mot de la fin avec nous. Alors, la NUPES accusée de bordéliser le pays. Dac, pas dac. D'accord, pas d'accord. Attention, résultat du match. C'est parti, on envoie.
Ah,
on a gagné un point. 54-46.
Pas encore. Le match est en cours.
On a l'impression que c'est le maire de Rouen, Charles Consigny. Il a perdu, mais il pense qu'il a gagné.
On m'appelle Maillard Rossignol.
La NUPES dans toute sa splendeur.
Allez, ma chère Estelle Denis, s'il vous plaît, vous allez nous donner le menu de Estelle Midi.
Mais oui, salut tout le monde, salut les GG. Bah écoutez, on va évidemment parler de cette réforme des retraites avec Elisabeth Borne, inflexible sur les 64 ans. Le gouvernement est-il arrogant sur le dossier? Et puis il y a une note des renseignements là qui est arrivée. Le gouvernement est très inquiet par rapport à des violences demain.
C'est ce que souhaite Charles.
C'est de la provocation en fait.
Une radicalisation à 13h, ces 4 ados jugés pour harcèlement.
Mais mon cabinet tient à la disposition des manifestants. Voilà, c'est ça.
Après le suicide de Lucas, un jeune collégien, est-ce qu'on doit les punir sévèrement, ces 4 ados? Et puis enfin, 44% des salariés français souhaitent réduire leur implication au travail cette année. C'est-à-dire ne faire que le strict minimum au boulot. Est-ce qu'on est devenu des feignants? Dites-nous tout au 32-16.
Petite feignasse.
Et nous, rendez-vous demain, 9h, avec Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, le cheminot gréviste et l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. À demain, 9h.